Les colloques du Collège de France.
Merci Denis, merci beaucoup pour l'invitation et merci à vous pour être ici aujourd'hui. Donc effectivement, si vous étiez là ce matin, vous avez vu des embryons dans des boîtes. Et là, je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble et ce qu'on connaît maintenant un peu, ce qu'on peut essayer de faire comme progrès sur l'embryon en tant que tel, réel, si on peut dire. Je vais monter un peu la lumière ici. Et donc ça fait effectivement partie, il y a un grand projet international en ce moment qui s'appelle le Human Cell Atlas, qui existe depuis plusieurs années. C'est un peu comme le génome humain, et l'idée est d'arriver à identifier tous les types cellulaires qui composent l'être humain, que ça soit l'adulte. Donc on a 37 trillions de cellules. Donc comment on passe d'une cellule, œuf, à 37 trillions de cellules, sachant qu'il y en a même plus que ça, parce qu'il y en a qui se renouvelaient continuellement dans la peau, dans l'intestin, donc 37 trillions, c'est un temps particulier. Et bien sûr, ça inclut une partie sur le développement de l'embryon et de l'être humain. Et tout ça avec des buts à terme de pouvoir peut-être mieux comprendre certaines pathologies. Donc on veut d'abord comprendre ce qui est normal, avant de comprendre ce qui n'est pas forcément très normal. Alors, vous n'y étiez pas tous là ce matin, et on a déjà eu une introduction qui était sur un peu des aspects historiques, et je pense que c'est important de vous montrer un petit peu comment a évolué, qu'est-ce qu'on connaît, quel était l'état de l'art il y a quelques années sur ce qu'on connaissait en embryologie humaine, et avant d'arriver à vous expliquer un peu ce que nous on fait au laboratoire et pourquoi c'est assez différent par rapport aux technologies qui ont été développées. Et il y a aussi un aspect représentation de l'embryon humain qui est intéressant aussi, je pense, à discuter brièvement. Donc, en fait, les embryons ou la grossesse, ça a fasciné des hommes, pas depuis hier ou avant-hier. Donc, on peut voir ici cette Vénus de Willendorf représentant une femme enceinte. Et donc, on voit bien que déjà, ça questionnait vraiment les hommes depuis l'origine. Alors, ça a été bien sûr quelque chose qui a intéressé beaucoup d'artistes, de peintres, et je mets souvent ce parallèle avec cette peinture de Klimt, parce que je trouve rappelle pas mal cette Vénus, à la fois par la coiffure et puis par la position des mains. Et donc là, vous voyez toujours, ça a été évoqué ce matin, l'embryon humain, ça fascine aussi parce qu'on ne le voit pas pendant la grossesse, c'est caché. Donc on ne sait pas ce qui se passe, on le découvre simplement à la fin, et donc c'est quelque chose qui a toujours un peu étonné tout le monde. Alors, il y a un artiste qui s'est intéressé également, et lui, il a fait une petite ouverture. Lui, c'est donc Picasso, donc c'est une présence particulière, mais là, il a quand même voulu représenter qu'il y avait un embryon à l'intérieur, donc c'était quelque chose d'aussi intéressant. Donc ça, c'est des représentations récentes, mais il y a eu beaucoup d'évolutions. Ça sera peut-être repris aussi par la suite, par les autres orateurs, sur comment on voit l'embryon humain. Donc vous aviez au Moyen-Âge ces tableaux des visitations où on voit Élisabeth et la Vierge Marie, toutes les deux enceintes, et on voyait à ce moment-là un petit embryon qui ressemble à un petit bonhomme à l'intérieur. Et ça, même ça, pour l'Église, c'était trop, et ça a été ensuite banni. On ne pouvait plus représenter ces embryons dans les tableaux suivants. Donc Léonard de Vinci, un des premiers à avoir vraiment essayé de représenter un fœtus, et ici... de manière vraiment comme qu'on peut le trouver dans une femme enceinte, et ça vous donne déjà un peu une représentation. Et on est déjà au XVIe siècle et on n'est pas non plus très avancé sur qu'est-ce que c'est que le développement embryonnaire. Donc il y avait donc on passe un siècle plus tard encore une fois, et là vous avez ce chercheur Art Zucker qui a été notamment membre aussi de l'Académie des sciences en France et qui s'intéressait qui a été un des premiers, il a participé à la conception des premiers microscopes, et donc bien sûr il a regardé plein de choses, il a regardé notamment des spermatozoïdes et était persuadé d'avoir vu que dans ces spermatozoïdes il y avait des petits bonhommes condensés, empaquetés, et que ce qu'il faisait simplement par la suite c'est de grandir. Vous voyez, ça ressemble pas mal au dessin qu'avait fait Da Vinci. Vous avez comme ça ce petit bonhomme compacté. Donc ça, c'était la théorie de la préexistence. Certains pensaient que c'était dans les ovocytes, qu'il y avait un bonhomme compacté. D'autres, c'était dans les spermatozoïdes. On va encore un siècle plus tard, je vais rentrer très vite. Et là, vous voyez encore une fois, il y a un effort d'essayer de montrer que l'embryon peut changer et grandir. Mais on voit que globalement, vous avez un petit bonhomme et puis il est de plus en plus gros, mais c'est simplement une condition de taille qui change, il ne se passe pas grand-chose d'autre. Donc c'est encore une fois, il n'y a vraiment pas beaucoup d'évolution. Et comme l'a dit Alfonso ce matin, ce qui a été vraiment un gros changement, c'est l'arrivée de cet anatomiste suisse, qui est un médecin suisse, même s'il a travaillé beaucoup à Leipzig par la suite, mais il était à Bâle initialement, qui a inventé un système permettant de couper des tissus biologiques, de les rendre d'abord solidifiés, puis les couper en tranches fines, de les coloriser avec des techniques histologiques classiques. Et puis après, il a pu comme ça essayer de faire des classifications et de commencer à vraiment à dire, voilà, l'embryon humain à tel âge, il est comme ça. Et puis petit à petit, on va pouvoir voir comme ça qu'est-ce qui se modifie dans cet embryon. Donc là, on est vraiment pas, il n'y a pas si longtemps, on est à un siècle. Et jusque-là, il n'y avait pas eu vraiment d'études sérieuses du développement embryonnaire humain. Donc ça a commencé avec d'autres travaux que je ne vais pas discuter aujourd'hui. Il commençait à y avoir un engouement autour de l'embryogenèse, de l'évolution, et ce qui fait qu'il y a eu des foires organisées un peu partout. Hein. C'est là qu'on pouvait voir aussi dans des musées des collections d'embryons qui étaient faites. Et donc là, c'est un exemple d'une affiche en Angleterre, d'une foire dans laquelle vous aviez notamment des embryons qui étaient présentés, The Origin of Mankind, et heureusement c'était bien sûr interdit aux femmes, c'était uniquement pour les hommes à l'époque, voilà, ce qui était quand même assez particulier. Voilà, donc il y a eu tout un engouement comme ça avec des foires itinérantes pour montrer ces embryons. Et donc on est passé à une échelle supérieure quand il y a eu un institut aux États-Unis, l'Institut Carnegie, qui était à l'université de Johns Hopkins à Baltimore, des personnes qui avaient travaillé notamment avec Willem Hiss, qui ont mis en place un système de collecte d'embryons. Donc là, on parle de centaines d'embryons et de fœtus qui ont été collectés aux États-Unis à cette époque-là, et qui ont, donc ces personnes-là, ont vraiment pris ces embryons pour essayer de décrire tout ce qui se passait au cours du développement, et ils ont montré qu'il y avait, pendant les 8 premières semaines, donc vraiment ce qu'on appelle la période embryonnaire, après on passe à la période fœtale, globalement, pour simplifier, les embryons, la séquence de développement est identique pour tout le monde. Et on peut précisément, à 2 ou 3 jours près, savoir l'âge, estimer l'âge de la fécondation, du développement, simplement par l'apparition de la pigmentation des yeux, la position des mains, la taille, et c'était très reproductible entre les différents individus, quel que soit le sexe. Hein, et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été marquant, ce qui fait que ça leur a permis de définir ce qu'on appelle les stades de Carnegie, qui sont toujours utilisés actuellement, et qui permettent vraiment très précisément, simplement par rapport à encore quelques paramètres, de dire exactement quel est l'âge de cet embryon. Après 8 semaines, ça devient variable, il y a une croissance qui est variable, le poids est différent, le sexe aussi commence à être important. Là, jusqu'à à peu près 7 semaines, les organes reproducteurs, les ovaires et testicules n'existent pas. Vous avez ce qu'on appelle une gonade bipotentielle qui peut donner, soit, même si vous êtes XX ou XY, va donner des ovaires ou des testicules en fonction des concentrations d'hormones. Mais après, c'est figé, ça se développe à partir de 7 à 8 semaines. Donc il y a eu donc des travaux qui ont été faits. Donc là, je vous montre juste un film qui reconstitue, gardant la même échelle, la croissance d'un embryon, les aspects morphologiques. Vous voyez à quel point ça évolue pendant ces 8 premières semaines, pour regarder si la position des membres qui va changer, l'œil qui apparaît, les paupières qui vont apparaître. Et tout ça, c'était à l'échelle. Vous avez une idée de la croissance importante qui se produit en 8 semaines pour cet embryon. Donc quand vous faites de la médecine et que vous voulez apprendre un peu l'embryologie, on vous donne des modèles de ce type-là qui sont basés sur des représentations, des coupes histologiques, encore une fois classiques, ça n'a pas évolué les technologies depuis 1890. Vous avez des coupes de tissus embryonnaires, on voit les intestins, le foie, le cœur, le cerveau ici, un membre, la colonne vertébrale. Et puis à partir de ces coupes-là, on va faire des modèles en cire, pour faire après des modèles de ce type-là, dans lequel on va voir ici, donc ça c'est une collection en Allemagne, la collection Bleischmidt à Göttingen, c'est à peu près 1,50 m de haut, et vous voyez certains nerfs, des artères dans cet embryon. Donc la qualité des images qu'on a, elle n'a pas beaucoup évolué depuis à peu près un siècle. Donc Alfonso l'a déjà dit ce matin, il y a vraiment eu un moment dans l'histoire, dans les années 60, où ce photographe, ici, Lennart Nilsson a sorti des images pour la première fois de fœtus et qui a vraiment rendu ça très populaire. C'est le volume du journal Life qui a été le plus vendu au monde. C'est une des images qui a été votée comme une des images les plus représentatives et les plus importantes du siècle. Et cette image-là de cet embryon a été envoyée dans les sondes voyageurs. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a été très, très marquant. C'est également sorti en France, un an plus tard, ça a été publié également par Paris Match, donc là on est en 1966. Donc ça sera revenu, ça a changé aussi un peu, ça a vraiment eu un effet important sur changer la façon dont l'embryon était perçu dans la société, et ça a été une période encore une fois où l'embryon, tout le monde en parlait, et ça a été très très actif, et ça a eu une influence très forte aussi dans l'art, Et donc là, je vais vous montrer un exemple d'un extrait d'un film que vous allez probablement reconnaître. Et comme je dis parfois, vous n'avez peut-être pas vu ces images-là parce que vous étiez endormi avant la fin du film. Et vous allez voir pourquoi après. Je pense que vous reconnaissez avec la musique, vous savez de quel film je parle, a priori. Ouais, oui. Donc ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on a vu avant sur le computer de Life, et donc ça a vraiment une influence importante. Et alors je vais vous montrer un deuxième petit film très bref qui montre une autre version de la même chose, mais un peu différente. Désolé. Non, mais donc c'est pour montrer quand même qu'il y a vraiment une importance et une influence importante de tous ces travaux embryonnaires sur la société en général. Alors, quand je pense que vous n'êtes pas tous scientifiques, je vais juste vous décrire très rapidement le genre de technique qu'on utilise pour essayer de vous faire comprendre un petit peu comment on peut faire, nous, pour visualiser les cellules dans un embryon humain. Donc, vos cellules contiennent ont différentes molécules, notamment des protéines. Beaucoup de cellules ont des protéines qui sont spécifiques. Vous ne trouvez ces protéines-là que dans cellules particulières. L'hémoglobine ne va être que dans vos globules rouges. Donc comme ça, on connaît un petit peu quelles sont des protéines qu'on retrouve simplement dans certains types cellulaires, dans des neurones, par rapport à des vaisseaux sanguins, par rapport à des cellules du foie. Et ce qu'on peut faire, c'est que ces protéines-là, ça vous permet, on peut développer des anticorps qui vont reconnaître ces protéines spécifiques. Donc il y a des anticorps contre énormément des milliers de protéines qu'on trouve dans les cellules du corps humain. Donc encore une fois, en prenant les anticorps spécifiques des neurones, je vais pouvoir avoir des neurones. Je vais pouvoir avoir des neurones de la moelle épinière par rapport à des neurones du cortex moteur. Je vais pouvoir avoir des neurones des cellules endothéliales des vaisseaux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met ces anticorps sur des tissus, classiquement ces anticorps, et puis on rajoute après un autre anticorps qui est couplé à une molécule fluorescente. Quand vous allez envoyer de la lumière sur cette molécule fluorescente, il y a un signal qui va s'allumer, et ça va, parce que l'anticorps est tout à la surface de la cellule, par exemple, ça va vous décorer la cellule, et dans un tissu qui est noir, je vais avoir un signal lumineux qui va décorer la cellule que je veux voir. Donc là, c'est un exemple d'un neurone que vous ne verriez pas forcément. Je mets un anticorps avec une molécule fluorescente, et je vais pouvoir avoir comme ça cette cellule qui s'illumine dans mon tissu. On peut utiliser plusieurs anticorps, plusieurs molécules fluorescentes, et on peut voir jusqu'à 4 à 5 types cellulaires en même temps avec des longueurs d'onde différentes. Donc classiquement, ces techniques-là sont utilisées également sur des coupes de tissus. On prend des coupes, parce que je reviendrai aussi après pour ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on incube des embryons. Alors, on ne fait pas que l'embryon humain, on fait de l'évolution, on prend des embryons de plein d'espèces. On met nos embryons qui ont été fixés, hein, ce sont les tissus morts. On met ces embryons fixés dans les solutions d'anticorps et on les laisse incuber pendant plusieurs semaines. L'anticorps va diffuser et va aller atteindre les cellules qui vous intéressent à l'intérieur du tissu. On laisse le tissu intact, il n'y a pas de coupe. Alors après, c'est bien que vous avez des anticorps, mais nous ne sommes pas transparents. Les tissus biologiques ne sont pas transparents. Et donc, notamment, il y a des pigments qui vont absorber la lumière très rapidement, donc ça ne va pas pouvoir pénétrer très profondément. Et puis, ce qui est important, c'est que les molécules ont ce qu'on appelle des indices de réfraction à la lumière qui sont différents. Donc l'air a un indice de réfraction de 1, mais d'autres molécules ont des indices de réfraction différents. Et donc le fait qu'il y ait une hétérogénéité des indices de réfraction dans les tissus fait que la lumière, quand elle arrive sur un tissu, comme ce n'est pas homogène, la lumière va être ralentie différemment par les différentes molécules, va être déviée, si on veut, différemment par les différentes molécules, ce qui fait que cette hétérogénéité fait que la lumière ne va pas pouvoir pénétrer très profondément. Elle est ralentie, vous perdez un peu d'intensité, et donc elle va pénétrer de quelques centaines de micromètres dans un tissu biologique classique. Alors, pour résoudre ce problème, donc ici vous avez un exemple, vous avez deux béchères en vert, et vous voyez, on voit les deux béchères, on voit qu'il y en a un petit à l'intérieur parce que vous avez de l'air, du vert, de l'air, et puis de nouveau du vert. Si maintenant on coule à l'intérieur du premier béchère, on va couler un liquide qui a le même indice de réfraction que le vert. Quand il va déborder, ça va remplir, ça va chasser l'air qui est ici, et donc on va se retrouver avec de l'air, du pyrex, ici, puis cette solution de propane qui a le même indice de réfraction que le pyrex, de nouveau du pyrex, et puis cet indice de réfraction. Du coup, tout est homogène, la lumière passe au travers, n'est pas arrêtée, et ça devient transparent. Donc ce qu'on veut faire, nous, pour rendre transparent des tissus biologiques, c'est la même chose. Vos cellules contiennent des protéines, de l'eau, des lipides dans les membranes, des acides nucléiques. Ce qu'on fait, c'est qu'on va, encore une fois, on veut garder les protéines, nos anticorps sont fixés dessus. On va déshydrater pour enlever de l'eau et des alcools, et on va solubiliser les lipides. Et donc, on va garder simplement un squelette de protéines. Il y en a beaucoup, elles sont toutes accrochées, elles ont été fixées, avec nos anticorps dessus. Et ça, ça suffit pour vous donner la forme des cellules. Et donc ça, ça marche très bien. On a juste besoin de quelques solvants pour rendre en quelques heures un tissu transparent à la lumière. Donc là, c'est un cerveau de souris. Donc on voit qu'on a récupéré. On va le blanchir, on va le dépigmenter, on va le déshydrater. Et puis, dans la nuit, en utilisant des solvants, on va pouvoir le rendre transparent complètement à la lumière. Donc maintenant, j'ai mon tissu transparisé, mes anticorps dedans sur mes cellules, c'est très bien, sauf qu'il faut maintenant un microscope particulier pour pouvoir imager ça. La plupart des microscopes, vous devez travailler avec des coupes très fines, et puis il va falloir aussi imaginer qu'il va falloir avoir une image d'un tissu qui va être très gros. On travaille sur des tissus qui font plusieurs centimètres cubes, et qu'avec des microscopes classiques, il va falloir balayer le tissu, et ça pourrait prendre des jours et des jours pour avoir une image 3D. Donc, ce qui a été notre chance, c'est que dans les années, il y a à peu près un peu plus d'une dizaine d'années, est revenu à la mode un microscope qui avait été inventé il y a des années, au début du siècle, par Zsigmondy, qui a obtenu le prix Nobel pour ses travaux sur les colloïdes, les molécules en suspension. Il avait inventé un microscope, il y avait l'ultramicroscope, et dans ce microscope, au lieu d'envoyer la lumière par le dessus de l'échantillon, par le dessous de l'échantillon, vous faites un plan, une feuille de lumière. Il utilisait des prismes pour transformer un faisceau de lumière en une feuille de lumière. Là, on utilise, vous allez voir, des lasers, on arrive à faire des feuilles de lumière de quelques centimètres qui font simplement à peu près entre 2 et 4 micromètres d'épaisseur. Donc on fait un plan, et l'avantage, c'est qu'on peut, au lieu d'éliminer des points qu'on va déplacer, on illumine d'un coup tout un plan dans un tissu. Donc on est capable, comme ça, de scanner très rapidement des échantillons. On va déplacer l'échantillon dans la feuille de lumière, et puis, avec un microscope particulier, on va prendre des photos de chacun des plans qu'on est en train d'illuminer. Donc ça prend quand même un peu de temps, mais on a un nouveau système qui nous permet de scanner. Voilà, un cerveau de souris va prendre 10 minutes pour être scanné avec plusieurs couleurs. Donc vous avez une chambre dans laquelle on va mettre les échantillons, et puis on va créer donc une feuille de lumière avec des lasers, il y a deux lasers, et puis on va éliminer comme ça juste un plan, on va déplacer les échantillons, on peut également les déplacer en XY, on peut faire des mosaïques 3D, la lumière est envoyée par des objectifs qui ont une grande distance, ce qu'on appelle une distance de travail, c'est-à-dire qu'on pourrait être à 2 cm de l'échantillon et quand même pouvoir l'imager, et puis on va envoyer tout ça vers une caméra à la surface qui va prendre une image. Donc là, on se retrouve avec une pile d'images 3D. On peut avoir des milliers d'images 3D. On a parfois des sets de données qui vont faire pour chaque acquisition jusqu'à, éventuellement, on a fait la semaine dernière, qui faisait 2 téras. Donc vous avez quand même des gros problèmes de gestion d'images, comment traiter ces images. Donc ça reste une technique compliquée. La transparisation est simple, l'immuno est simple. Après l'analyse des images, c'est vraiment ce qui est le plus compliqué. Donc vous avez votre pile d'images, vous envoyez ça vers des ordinateurs, et puis on va essayer de reconstruire en 3 dimensions les images. Donc là, je vais vous illustrer maintenant un peu les résultats, vous montrer enfin à quoi ça ressemble, et notamment pour vous parler d'un travail qu'on a réalisé sur le développement de la tête humaine. Alors, pourquoi la tête humaine? Alors, parce que c'est quelque chose d'assez évident, dans plein d'espèces, c'est quand même vraiment une structure très importante. C'est par là que vous entendez, que vous voyez, que vous goûtez, que vous mangez, vous respirez. Donc, et c'est d'un point de vue évolution, ça a été une des structures qui est apparue assez tardivement, qui a vraiment changé complètement la façon dont les espèces se sont développées. Donc c'est vraiment une structure très importante dont le développement a été très très bien étudié dans plein d'espèces, mais à une très très forte résolution chez l'homme, on n'a pas beaucoup d'informations. Et si vous apprenez actuellement en embryologie le développement de la tête humaine, vous basez sur les travaux qui datent encore une fois globalement entre les années 1910 et les années 1940-50. Donc là, ça vous montre quand même les changements, la morphologie, les changements de morphologie de la tête humaine au cours du développement embryonnaire et des images en microscopie à balayage. Vous pouvez voir ces changements très importants. C'est vraiment un embryon humain. Vous allez voir comment les narines se forment, comment les deux moitiés de la tête vont fusionner. Vous savez qu'il y a beaucoup d'anomalies de fusion de ces structures avec des formations de fentes palatines qui peuvent se produire. C'est vraiment une structure extrêmement complexe. C'est pour ça qu'il y a énormément de maladies du développement qui affectent la tête directement ou indirectement. Si vous voulez étudier le développement des artères de la tête, ce que vont faire toutes les personnes qui s'intéressent aux AVC, aux vaisseaux cérébraux, vous étudiez vos connaissances des artères de la tête vont venir des travaux. Elle n'était pas biologiste à l'origine, c'est une dessinatrice, Madame Padgett, qui a réalisé ces magnifiques dessins vous montrant comment les artères se développent dans l'embryon et dans le fœtus humain. Donc là, on est en 1948, et c'est vraiment toujours, les 47 et 48, elle a fait deux articles, qui sont vraiment des articles qui ont complètement changé la médecine sur la compréhension qu'on a du développement des artères. Si vous voulez étudier le développement des muscles de la face, on se base sur des travaux les plus détaillés, sont ceux en 67 de Gasser, et encore une fois, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau depuis. Donc on pensait que c'était intéressant, donc on a commencé ce travail il y a 6-7 ans, sept ans maintenant, pensant qu'on ferait quelques travaux dessus. On avait une seule personne au laboratoire et c'était en plus un hasard avec une collaboration avec un chercheur, Paolo Giacobini, qui était à Lille, qui était venu me voir pour un projet particulier. Et maintenant, je pense qu'on a eu travail pour au moins 40 personnes pour 15 ans sur ce projet-là. Donc le genre d'image que nous on génère, c'est ça. Donc ça vous montre un peu la différence par rapport à ce qu'on peut voir avant. Je vais détailler plus en détail. Donc là, vous avez la tête d'un embryon, l'oreille. On va voir ici les muscles en rouge. Et puis, ce que vous avez en bleu ici, ce sont tous les nerfs sensitifs qu'on peut voir dans cet embryon. Et donc, on fait aussi le fait qu'on ait des images en 3D, on peut faire des animations. Donc, je peux pas vous montrer, je vais vous montrer après des exemples de comment on étudie ces images. Et ça peut donner des images de ce type-là. C'est ce qui sort du microscope. On va voir un embryon dans lequel on a marqué les nerfs, les muscles et puis le cartilage qui va donner les os plus tard. Donc là, on a pris les images, on les a ouvertes dans un logiciel de 3D et on a pu faire ce genre de film-là. Donc là, on va rentrer dans la tête. Vous voyez les mains, les muscles. Vous voyez la précision qu'on a. On est au niveau maintenant d'axone unique. Et puis, on va utiliser des logiciels nous permettant, à partir d'un anticorps qui marquait tous les nerfs ou tous les muscles, en blanc ici, on va pouvoir utiliser des logiciels pour aller peindre et isoler chacun des muscles des tissus de l'embryon. On a pu visualiser les muscles, on va pouvoir maintenant, voilà, ça c'est les muscles qui font bouger l'œil, il y a 6 muscles qui font bouger votre œil, plus un qui fait bouger la paupière supérieure. Ça, ce sont les nerfs qui vont sur différents muscles de l'œil. Vous avez un seul nerf qui va sur ce muscle ici, un seul nerf qui va ici, l'abducin, sur le muscle latéral rectus, qui fait bouger votre œil latéralement. Et comme ça, on peut voir au niveau de la tête tous les muscles, tous les nerfs avec une précision micrométrique. Et ça, on peut le faire pour l'ensemble du corps. Ici, vous avez le nerf olfactif. Ici, en blanc, c'est ce qui va donner le nez plus tard. C'est ce qu'on appelle la capsule nasale. Alors, ces images-là, je vous explique un petit peu comment on les fait. Et comme ce sont des données 3D, en fait, on utilise la réalité virtuelle. Donc, vous aviez dû voir peut-être cette image d'un monde magnifique où tout le monde porte des casques. On aurait pu le faire ici, hein, le Wi-Fi est assez bon. J'aurais pu vous faire une partie de la présentation en réalité virtuelle, mais je pense que c'est un petit peu compliqué à organiser en ce moment. Et donc, dans mon laboratoire, voici ce que font la plupart des personnes. Vous avez ici deux étudiants, Raphaël, qui a fait le travail sur la tête, Amine, et puis un postdoc, Chad. Et puis, tous les jours, dans mon labo, vous allez avoir des gens qui vont analyser ces données 3D en réalité virtuelle. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on peut voir les données vraiment de manière 3D, et on va utiliser des logiciels pour aller peindre ces structures que je vous ai montrées tout à l'heure. Et donc, au lieu de faire ça sur des coupes, une par une, on a des milliers de coupes, on va pas aller peindre les différentes structures une par une, on va utiliser la réalité virtuelle. Et donc là, ici, par exemple, vous avez un embryon humain dans lequel on a marqué les muscles, et vous allez voir Raphaël, c'est un petit peu accéléré, mais pas énormément, qui va aller sélectionner des régions. On va avoir ici, au niveau de la tête, les muscles oculomoteurs, et puis il va aller avec une petite bille, un petit pinceau. Il va aller peindre en 3 dimensions, il va aller teinter les différents muscles de la tête. Donc là, vous allez voir son travail. Donc voilà, il est en train de commencer à peindre en 3D les différents muscles. Et même quand c'est très très proche, le fait qu'on soit en réalité virtuelle nous permet vraiment de voir les structures, de voir qu'est-ce qui est devant, derrière, au-dessus. Et donc on peut aller comme ça assez vite pour segmenter l'ensemble de la tête. Donc là, Raphaël, pour la tête, a pu, faut avoir en tête, si je peux dire, il y a 150 muscles, 75 de chaque côté, et ça lui prend à peu près 2 jours à 2 jours et demi pour segmenter, peindre comme ça l'ensemble des muscles. Donc on part d'une image comme ça brute, vous avez tous les nerfs et l'ensemble des muscles marqués de manière homogène, à ce genre d'image où on va voir voilà, ces différents muscles oculomoteurs avec chacun des nerfs qui les innervent. Alors on a pu collecter des embryons à différents âges. Ce qui nous permet, en fait, ce n'est pas le même embryon, ce sont des embryons différents, mais encore une fois, je vous ai dit, le développement est relativement constant, on peut dire à peu près à une journée ou 2 journées près quel est l'âge d'un embryon. On va pouvoir comme ça prendre les différents muscles, les peindre, on a gardé le même code couleur, c'est la même échelle, et donc là ce qu'on voit c'est la croissance des muscles oculomoteurs au cours du temps, entre 5,5 semaines et 11 semaines, et puis vous pouvez voir qu'on peut comme ça voir l'apparition de certains muscles. Ce muscle-ci ici, le médial rectus n'était pas présent à ce moment-là, et là on le voit apparaître, on voit que les nerfs n'étaient pas encore arrivés ici, ce nerf trochléaire n'était pas arrivé jusqu'au supérieur oblique, et maintenant il y est arrivé. Donc on peut comme ça dater l'arrivée des différents muscles, voir comment ils vont se mettre en place, voir comment les différents nerfs vont se mettre en place. Et ça, c'est important. Quand les personnes qui ont des strabismes, la plupart du temps, c'est que ces nerfs-là se sont connectés aux mauvais muscles pendant le développement. Donc ça, c'est quelque chose qui va se produire à peu près entre la 6e et la 7e semaine de développement embryonnaire. Ces erreurs sont faites et ça reste compliqué de pouvoir les corriger. Donc ça, c'est vraiment cette réalité virtuelle. Et la 3D est très intéressante parce qu'on a beaucoup de structures. Pour l'instant, l'embryologie, on essaie de la comprendre à partir de coupes 2D. Et il y a des structures qui sont vraiment très, très complexes et qu'on ne pourra pas comprendre facilement en deux dimensions. Un exemple, c'est également la langue. Donc la langue, c'est un muscle très compliqué. Et c'est pas un muscle, il y a plein de muscles différents dans la langue. Et c'est organisé de manière très, très complexe. Et même chez l'adulte, on ne sait pas très bien comment sont organisés tous ces muscles de la langue. Et en tout cas, on ne sait pas bien comment ils se développent. Donc là, on va rentrer dans la tête d'un embryon où on a isolé les muscles. Donc on rentre dans la bouche. Et là, vous allez voir donc la langue avec ses différents muscles. On peut voir donc tous les muscles qui ont été colorisés de cette langue. Et on a également tous les nerfs qui innervent la langue. Vous avez 4 nerfs principaux, 3 moteurs, 1 sensitif. Et on peut voir exactement comment ces différents nerfs vont se partager les muscles, comment ils vont pousser et comment ils se mettent en place. Et on peut faire ça sur toute la tête. Donc on a la langue, mais on va pouvoir voir apparaître bientôt le larynx, le pharynx. Et puis on peut voir le cartilage aussi, hyoïde, thyroïde. Et donc on peut vraiment faire comme ça un atlas très très précis, pour l'instant macroscopique, du développement de l'ensemble des structures céphaliques. Et on est en train de l'appliquer bien sûr à l'ensemble du corps humain, on ne se restreint pas uniquement à la tête. Et donc ça donne des références qui, contrairement à ce qui a été fait avant, sont vraiment très précises. On a pu notamment, on pensait, il y a encore 4-5 ans, que dans la tête, certains muscles n'étaient pas présents à la fin du développement embryonnaire, que ça continuait beaucoup plus longtemps. On a montré que ce n'était pas le cas, que dès la 8e semaine, à la fin du développement embryonnaire, tous les muscles sont présents, tous les nerfs sont présents. Il y a même plus de muscles. Certains vont disparaître ensuite au cours du développement. On peut marquer d'autres structures, donc je vous dis, on a plein d'anticorps maintenant, on essaie vraiment de trouver des anticorps qui vont marquer un nombre croissant de cellules différentes, et on est capable notamment de marquer les cellules du cartilage et des os. Donc là, vous avez un embryon, c'est encore une fois l'image brute qui sort du microscope, hein, ça ressemble à ça, où on va pouvoir voir le squelette. Et ici, on a pu coloriser chacun des os différents. Et ça, on l'utilise notamment pour commencer à mettre en place des solutions pour les médecins, pour apprendre l'embryologie et apprendre l'anatomie. On a développé différents outils 3D qui permettent, comme ça, de savoir comment, quel est le nom de ces différents os, comment ils se mettent en place, avec cette fois-ci données réelles, pas des moulages en cire ou des reconstitutions de différents embryons. Ce que je vous montre là, à chaque fois, c'est un embryon unique. Ce ne sont pas des assemblages de différents tissus. Et là aussi, on peut encore une fois étudier à différents âges, reconstituer la croissance du crâne. On va partir d'un crâne à 5 semaines 5, à 11 semaines. Vous voyez comme ça la croissance importante du crâne. On va pouvoir mesurer le volume des différents composants du crâne et voir comment ils se constituent. Alors, bien sûr, tout ça, c'est ensemble, c'est collé. Et donc, si j'étais chirurgien très doué, mais à ce stade-là, ce serait compliqué, je pourrais essayer de séparer les différents composants du squelette en les disséquant, ce qui serait globalement impossible à ces âges-là. Sauf que, comme on est en trois dimensions, on peut utiliser des logiciels qui sont utilisés pour de l'animation, notamment un qui s'appelle Blender, qui nous permet de séparer les composés. Donc là, on a le crâne entier avec les différents os. Et puis, on va pouvoir utiliser un logiciel pour séparer les différentes structures qu'on a segmentées. Donc, on va éclater, si vous voulez, ce crâne pour pouvoir voir exactement les différents éléments et puis pouvoir sélectionner ce qui nous intéresse. Donc, tous ces outils, vraiment, le fait que ça soit en 3D vous permet de faire ces espèces de dissections virtuelles des différentes structures embryonnaires. Alors, il y a des éléments aussi de l'embryon qui sont très compliqués à comprendre et qui sont très denses, notamment c'est le cas du système vasculaire, de vos vaisseaux sanguins, qui sont vraiment très très denses. Et c'est très important de comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, si vous faites les neuroradiologues interventionnels qui interviennent sur les personnes qui ont des AVC, sont formés au développement et à l'organisation des artères du cerveau en étudiant notamment l'organisation des artères chez l'embryon, puisque c'est, on a vraiment des vues assez, assez globales. Et c'est important, encore une fois, d'avoir beaucoup de données précises pour vraiment comprendre comment ces artères se mettent en place. Donc là, c'est un exemple d'un embryon qu'on a marqué avec un marqueur des cellules endothéliales, qu'on appelle PLVAP. On a marqué également le cartilage en blanc, et puis les artères, vous allez voir, on les a en cyan. Donc là, on voit toutes les artères intégralement d'un embryon humain, et on peut l'avoir dans une seule acquisition. On va avoir la totalité des artères, la totalité des os. On est capable de faire plusieurs rangs de marquage, donc on peut arriver jusqu'à 12 anticorps différents sur le même tissu, donc de voir jusqu'à 12 types cellulaires différents en même temps. Et donc ça, c'est intéressant pour comprendre comment, vous voyez, c'est la densité des capillaires à cet âge-là, comment ces structures de la tête vont se mettre en place. Donc ça donne des images qui sont, je pense, esthétiques, mais aussi qui donnent beaucoup d'informations sur la mise en place des organes, comment les tissus se ramifient, comment vos vaisseaux sanguins vont former des différentes branches, comment ils vont pousser dans les organes. Donc on a aussi beaucoup d'informations qui nous permettent également d'avoir des références. Vous allez entendre parler d'embryons, enfin, je ne pense pas que toi tu dis synthétique, mais d'embryons dans des boîtes. Et c'est très important pour beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle des organoïdes, d'avoir une référence. Combien il y a de cellules dans un tissu embryonnaire à un temps donné, personne ne le sait. Donc là, on est capable maintenant de compter les cellules, de vous dire, à différents âges, combien vous allez avoir de cellules dans le foie, comment ces structures, ces cellules différentes s'organisent de manière 3D, et donc de vous dire éventuellement, voilà, par rapport au type cellulaire présent, quelle est leur structure, et est-ce que l'organoïde que je développe in vitro correspond vraiment, récapitule vraiment le développement ou pas. Et si vous n'avez pas une référence de ça, c'est compliqué de pouvoir calibrer la technique de culture. Donc là, je vous montre un exemple de ce que donc EMAD, qui est radiologue à la Salpêtrière, a fait de sur un de ses embryons. Donc il connaît parfaitement le système vasculaire et il a pu comme ça, là c'est un trait qu'il a fait, ça lui a à peu près 3 jours, il est capable d'annoter la totalité des artères cérébrales de cet embryon et qui globalement ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans un individu adulte. Et il peut comme ça identifier des centaines de structures qui ont tout un nom et une organisation anatomique. Mais il a également découvert des artères qui n'avaient pas été décrites, il est en train de le faire dans l'ensemble de l'embryon. Il a également trouvé qu'il y avait des erreurs dans les livres d'anatomie sur l'anatomie adulte, et ça il a pu le voir parce que chez l'embryon c'est organisé différemment. Donc il est en train de faire des différents travaux et l'avantage d'avoir ces vues globales de différentes structures en même temps, ça donne vraiment des avantages très importants. La moelle épinière est très très compliquée à disséquer pour pouvoir comprendre le système vasculaire, mais là on la voit très très bien, et donc on a compris des choses sur l'organisation des artères spinales qui n'étaient pas connues dans les livres d'anatomie. Alors, il y a d'autres structures qui sont également très complexes à comprendre en 2 dimensions. Et dans beaucoup de nos organes, en fait, quand ils poussent, nos organes poussent comme des arbres ou comme des coraux. On a beaucoup d'organes du corps qui sont des organes branchés. C'est-à-dire vous partez d'un élément qui va se diviser en 2, comme ferait un arbre, et puis des branches vont se diviser de plus en plus. Dans ces arbres, les branches les plus périphériques sont les plus jeunes, celles de l'année, et puis le tronc, et puis le principal, c'est la première chose qui a poussé. Alors, on a beaucoup d'organes qui sont du même genre, et je vais prendre juste un exemple, qui est le poumon. Votre poumon, quand vous voyez chez un adulte, il ressemble à ça. Il a vraiment énormément de branches. Vous avez la trachée, les bronches, et puis tous ces bronchioles qui vont former cet arbre pulmonaire. Et il y a des termes anatomiques qui vous permettent de dire qu'il y a des régions du poumon qu'on appelle B1, B2, B3, qui sont très connues, qui sont relativement constantes chez l'individu, bien qu'on peut montrer que ce n'est pas exactement le cas. Et donc, ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment ces organes branchés, dont le poumon, se développent. Donc ça, c'est le travail de Megumi, une étudiante au laboratoire, qui a essayé d'utiliser la 3D pour comprendre le développement du poumon. Le poumon, chez l'homme, en fait, il vient de votre œsophage, globalement, et il pousse, il a commencé à apparaître vers le 26e jour de développement. Vous avez une espèce de petite chose qui apparaît ici à l'avant, des bourgeons, et puis très rapidement, vous avez une différence entre le côté droit et le côté gauche. Vous avez le cœur du côté gauche, et le poumon ne va pas être exactement pareil que du côté droit. Et dès 6 semaines, ça ressemble à ce genre de choses. Vous avez ici une image 3D, utilisant anticorps pour pouvoir voir le poumon et puis le modéliser en trois dimensions. Alors, je vous ai dit que le poumon adulte, il avait ses structures bien connues, B1, B2, B3, B4, B5. Pour les deux poumons, c'est très bien ce qui se passe. Mais en fait, vous prenez un poumon de 6 semaines, si vous colorisez différentes régions, vous voyez que tout est déjà en place dès la 6e semaine. C'est-à-dire que les grandes subdivisions pulmonaires qu'on va voir par la suite, à 6 semaines, c'est déjà là. Vous avez déjà ces B1, B2, B3, B4, B5, B6. Donc, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête, c'est que dans le développement humain, Vers 6-8 semaines, vous avez déjà globalement tout le patron d'organisation de tous les organes qui est en place. Bien sûr, la croissance va continuer, le poumon, ça va continuer à pousser pendant des semaines, et même après la naissance, il y aura des modifications, mais ce qu'on dit globalement, le plan d'organisation globale, la position des différents organes est en place. Les muscles sont innervés, les muscles vont continuer à pousser, les nerfs vont continuer à pousser, vous allez avoir une croissance de l'ensemble, mais globalement, l'organisation est en place. Et pour beaucoup de maladies qui affectent le développement embryonnaire, c'est vraiment sur ces périodes-là que le système être affecté, c'est pour ça que c'est important de le comprendre. Alors, on a ces données-là, donc ça, c'est bien quand c'est simple, on peut juste peindre encore une fois, dessiner ça, mais le poumon, il va avoir des dizaines de milliers de branches, et donc pour reconstituer ça, le faire à la main, ça deviendrait complètement impossible. Et donc, on commence à utiliser des approches faisant appel à ce qu'on appelle le deep learning ou l'intelligence artificielle pour pouvoir reconstituer, par exemple, ce poumon-là, ses branches, en trois dimensions, pouvoir modéliser le développement pulmonaire. Donc on a ça c'est les images brutes, encore une fois, c'est ce qu'on sort du microscope. Et puis là, je vous fais vraiment très rapidement, Megumi va utiliser un système, un logiciel qui va lui permettre de simplifier ces images-là, de diminuer la taille et de garder que le signal intéressant. Donc elle va pouvoir entraîner la machine à reconnaître que ça, c'est une branche qui a une cavité dedans et que le reste, en fait, c'est que du tissu qui ne nous intéresse pas. Elle va faire sur quelques coupes et puis elle va faire tourner le système et en quelques heures, il va pouvoir nous faire une image où l'ensemble des plans ont été traités et tout ce qui était une branche a été ce qu'on appelle binarisé, comme ça. Après, on va utiliser d'autres logiciels, je vais parler dans tous les détails, qui nous permettent, par exemple, à la fin, de remplir les cavités. C'est-à-dire, ce qu'on veut faire maintenant, c'est remplir le centre ici parce qu'on veut mettre un point au centre de chacune de ces cavités pour pouvoir reconstituer vraiment l'arbre. C'est-à-dire que c'est comme vous aviez un fil que vous enfoncez dans le poumon et puis vous voulez reconstruire un peu un squelette de votre poumon pour pouvoir mesurer la longueur des branches, les angles de ces branches. Et donc, on a besoin de simplifier le modèle pour pouvoir faire un arbre phylogénétique du développement du poumon. Et donc ça, elle est capable de le faire. On a maintenant, même sur des poumons de 14 semaines, on a, je dis encore une fois, des dizaines de milliers de branches, on est capable automatiquement de générer ce genre de squelette qui maintenant permettent à des gens qui font de la modélisation de nous modéliser le développement pulmonaire. Donc l'idée, là on va encore une fois isoler les différents éléments, on est capable pour chacune de ces branches de partir du début et puis de retracer tout l'arbre phylogénétique du développement pulmonaire humain. Et donc ça, on va le faire à différents âges. Et puis après, avec l'aide de modélisateurs en Angleterre, Ben Simons, Ignacio qui est au Chili, et Adrien qui a un laboratoire à Oxford, on est en train de reconstituer, on aimerait bien arriver à modéliser, comprendre comment le poumon prend sa forme, pourquoi certains lobes vont se diviser 25 fois, pourquoi d'autres se divisent 15 fois, quels sont les mécanismes qui contrôlent le développement pulmonaire. Si je prenais un poumon de souris, même adulte, il ferait à peu près cette taille-là par rapport au poumon humain. Et donc ça, on a fait encore une fois une séquence de développement très très large, puisqu'on a déjà plus de 80 poumons chez l'homme, et on a pu voir qu'il y a notamment une très grande variabilité dans le développement de ces branches pulmonaires, beaucoup plus grande que ce qu'on pense par rapport à l'anatomie adulte. Voilà, donc c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Comme on a des données 3D, on peut faire des films, on peut faire de la réalité virtuelle, on peut faire aussi des impressions 3D. On peut faire des modèles de ce type-là qu'on va imprimer avec des imprimantes qui sont assez chères, mais ça donne des modèles très précis. Là, encore une fois, ce ne sont pas des moules en cire, ce n'est pas plusieurs modèles, c'est un embryon particulier. Alors, le poumon, là, on l'a grossi 20 fois, hein, ce n'est pas la taille d'un poumon embryonnaire, mais on va comme ça pouvoir mieux comprendre comment les structures se mettent en place et puis expliquer un petit peu aussi comment l'embryon se met en place. Donc un des messages, c'est que l'embryologie humaine, c'est pas même classique, hein, indépendant organisme, c'est pas quelque chose de has-been, entre guillemets, c'est pas quelque chose qui est mort. Il y a un grand développement en ce moment, au contraire, de toutes les techniques d'embryologie humaine. Je vous ai présenté simplement l'imagerie, mais il y a plein d'autres choses qu'on pourrait discuter sur des techniques pour mieux comprendre l'embryon, mesurer les forces dans l'embryon, identifier les cellules dans l'embryon. Il y a vraiment énormément de choses, ce qui fait qu'il y a vraiment tout un tas d'articles qui sortent toutes les semaines maintenant utilisant les embryons humains, parce que, encore une fois, on connaît mieux le nombre d'étoiles dans la galaxie que le nombre de cellules dans l'embryon humain. Donc, on ne s'est pas trop penché sur l'embryon pendant des années. Et il y a maintenant tout un tas d'outils qui permettent de faire ça, donc c'est vraiment important d'avoir ces références et de comprendre quand même d'où on vient et comment on a pu évoluer. Alors ces travaux, on en parlera peut-être, c'est juste pour introduire d'autres sujets qui sont viendront par la suite. Ce qu'on fait au laboratoire, ça a un impact aussi sur la société. Ça a été très très discuté, nos travaux, les premiers travaux d'il y a 7 ans aux États-Unis, notamment les aspects éthiques. On peut montrer que ces embryons sont très beaux, sont très développés, et on avait montré notamment que les nerfs dans la main, le patron d'arborisation des nerfs dans la main, le fait que tel nerf ait tel doigt ou tel doigt ou tel doigt, était en place dès la 8e semaine. Et des associations aux États-Unis ont dit « Ah, regardez, ils ont montré en France ce magnifique travail que l'embryon peut sentir la douleur dès la 8e semaine. » C'est pas ce qu'on avait écrit du tout, mais ça a été, et ça a notamment servi de base pour changer la loi au Texas. Un sénateur a parlé de ce travail-là pour dire, regardez, ce groupe a montré que l'embryon sentait de la douleur à 8 semaines, donc il faut interrompre à 6 semaines. Donc ça a des conséquences inattendues, hein, on sait jamais, quand on travaille sur l'embryon humain, bien sûr, ça a des conséquences importantes. Donc il faut quand même garder ça en tête aussi dans nos travaux. Donc juste pour conclure, il y a vraiment beaucoup de travaux en cours. Et il y a vraiment une importance, on est vraiment à un point où c'est important de comprendre, notamment avec ces travaux qui vont vous être montrés sur les organoïdes humains, arriver à comprendre comment l'embryon se met en place. Donc l'INSERM a mis en place un consortium de plusieurs laboratoires pour étudier l'embryologie humaine. L'Angleterre en a également un, même plus gros, qui a été financé par le Wellcome Trust. Vous avez ce Human Cell Atlas. Il y a un consortium canadien dont je fais partie. Il y a 50 laboratoires impliqués dans le monde entier qui s'intéressent à étudier l'humain à différentes échelles, de l'embryon jusqu'à l'adulte. L'Europe a financé des projets. Donc c'est vraiment un moment où il y a tout un bouillonnement d'activités autour de l'embryologie humaine, parce qu'encore une fois, on n'y connaît pas grand-chose. Voilà, donc je vais m'arrêter là et mentionner beaucoup de collaborateurs. Bien sûr, on est très nombreux sur ce projet. Donc Paolo, qui a vraiment été par hasard à l'origine de tout ce projet. Et on a des collaborateurs principaux à Rennes, à Cochin, en Angleterre au Sanger, et puis Ben Simons au Garden Institute en Angleterre. Voilà, merci à vous.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.